Bienvenue dans Chambres adolescentes, le podcast. Des portraits en photo et en mots réalisés par Juliette Masse et Jovitech à retrouver sur www.chambresadolescentes.fr. Laura et Marie, 15 ans, leur chambre est à Saint-André de Sangonis, dans l'Hérault. Chambre jumelle, pas tout à fait pareil, portrait écrit et lu par Jovitech.
Être seul ou bien deux? Dès la première rencontre, la question s'était posée. Marie avait envie de participer à l'aventure du portrait en chambre. Laura, moins partante, était quand même venue à la réunion, organisée au collège. Quant à Karine, leur mère, elle s'interrogeait sur un portrait à deux. Comment être seule sans ôter à l'autre un peu de soi? Comment s'engager dans sa propre existence, tout en restant liée, et sans doute à jamais, à cette autre personne avec laquelle on a depuis le début tout partagé? Délicates et profondes questions qu'induit la gémellité, et particulièrement à l'adolescence où l'individu commence à faire ses propres choix. Deux mois plus tard, en avril 2020, la famille en plein confinement accepte de nous accueillir en visio, et la question demeure et perdurera tout au long des entretiens, sans ne jamais être tranchée. Laura déteste être seule, parle beaucoup, dit souvent « nous » et reformule ce que dit sa sœur. Marie, plus discrète, apprécie la solitude, voudrait affirmer son besoin d'indépendance, tout en reconnaissant le paradoxe, cette forte dépendance à Laura, qui fait que sans elle, elle n'ose pas. Même aller chercher le pain seule, elle ne l'ose pas. C'est donc à la lisière de ces deux chambres jumelles, et pourtant singulières, que je décide de poser mon stylo. Le long de cette porte coulissante qui sépare les deux espaces intimes et souvent partagés. La porte ne se ferme que quand elle se dispute. Et elle n'aime pas qu'elle soit fermée. Laura dit « nous », presque pour tout. Marie affiche ses sentiments au singulier. Sur l'écran de l'ordinateur, Laura est à gauche, Marie à droite, la maman au milieu, au début, et puis hors champ. Mais toujours là, présente. Elle dit « complice », avec ses deux filles, dont à la naissance, elle a été séparée. Karine a besoin de raconter, de revenir sur le début de leur histoire mère-fille. Elle nous dit qu'elles sont nées à 6 mois. Marie, l'aînée, pesait 800 grammes. Laura, 1 kilo. Marie est restée 3 mois à l'hôpital. Laura, 2. Et la séparation a été brutale dès le début de leur vie. C'est ce qui a développé chez elle la crainte d'être loin de la maman. Et c'est pourquoi, nous dit Karine, elles sont si fusionnelles. Elle dit qu'elles sont nées fragiles avec une peur autour d'elles. Peur de la maladie, de la mort, de la séparation. Peur des autres, qui à l'adolescence s'est décuplée. Stress aussi d'aller dormir chez les copines et hantise de se retrouver seule. Peur du dehors, peur du jugement. L'angoisse est très présente chez les deux sœurs, qui en parlent aisément. Laura nous dit que c'est horrible d'être séparée et Marie évoque cette fenêtre au-dessus de son lit qui lui fait peur le soir.
La journée, oui, je me sens en sécurité dans ma chambre, mais la nuit, comme j'ai pas de volets, j'ai que des rideaux, j'ai un peu peur qu'il y ait des gens qui rentrent dans ma chambre.
Ah, tu as peur de ça?
Ouais.
Quand je lui demande de préciser ce danger, elle ne sait pas bien. C'est une peur du méchant, une peur de conte, de l'enfance, qui le soir gronde dans sa chambre. Laura avoue être maniaque, mariphobique des microbes. Toutes deux s'expriment bien et font preuve d'une belle maturité qui tranche avec cette peur enfantine. On sent qu'elles ont l'habitude de parler d'elles, de réfléchir sur ce stress et ce manque de confiance en elles. Chez le psychologue, qu'elles consultent depuis plusieurs années, elles se sont déjà pas mal interrogées conscientes d'être intriquées, hyper protégées, dans leur bulle familiale, mais aussi qu'irrémédiablement, pour s'épanouir et grandir, elles allaient devoir en sortir. En attendant, elles balayent leurs longues chevelures lisses, qui se font tantôt rideaux, tantôt gestes de séduction. Elles avancent à pas menus, ensemble et dans leur singularité. Plus à l'aise à la maison qu'au collège, c'est là qu'elles se libèrent, osent être pleinement l'une et l'autre, et un peu l'une sans l'autre. Marie, petite clown poète gaffeuse qui, dans le miroir, se trouve jolie. Laura, bavarde, engagée, qui revendique son besoin de créativité. Celles qui n'aiment pas trop aller chez les autres, ni que les gens ne restent trop longtemps chez elles parce que cela leur casse leurs habitudes, nous font l'honneur de nous inviter dans leur chambre mitoyenne, presque similaire, mais pas tout à fait. C'est donc à pas de loup virtuel que nous les suivons dans ces cocons chaleureux. Sinon, pour le ménage, c'est tous les dimanches. Laura, qui ne supporte pas le désordre, y tient beaucoup. Et dans cette habitude, bien, Marie la suit. Pas de souci. Pendant le confinement, elles n'ont pas bougé de chez elles. Avec la phobie des microbes de Marie, de toute façon, les gestes barrières étaient là, bien en place, bien avant. Laura m'explique qu'elles avaient déjà peur des maladies avant la Covid. Et que d'ailleurs, leurs copines sont déjà habituées. Dès qu'elles arrivent, il y a du gel antibactérien à la maison. Marie fait très attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle boit. Elle a une phobie des microbes et Laura, elle, déteste le désordre. Marie confirme qu'elles essaient toutes les deux de pas trop montrer leur stress, leurs angoisses aux copines. Qu'entre elles, elles n'ont pas de tabou. Et que les copines sont au courant de toute façon sur leur façon de fonctionner. Elles essaient juste de ne pas être trop lourdes. Pendant le confinement, les deux sœurs, Bulle, ont simplement passé plus de temps en chambre, la porte ouverte, parfois l'une chez l'autre, et s'aérant dans le jardin. Pour les devoirs, elles sont dans la même classe. Même s'il y a plus de travail que d'habitude, elles s'en sortent pas mal. Elles s'aident quand il le faut, mais travaillent chacune de leur côté. Laura a son bureau. Marie préfère les faire les devoirs dans le salon. Elles se sont habituées, mais les amis leur manquent. Alors, pendant les cours en visio, elles communiquent en douce sur Messenger. Laura acquiesce de ce manque du groupe, précisant qu'elles ont les mêmes copines, Luna, Jeanne et Héloïse.
Ça, c'est vos bonnes copines, Luna et Jeanne. Il y a une copine chacune ou comment ça se passe? Parce que le fait d'être jumelle, c'est une vraie interrogation toujours. Hein. On se dit, est-ce qu'on a une vie commune ou est-ce que vous arrivez chacune à avoir votre...
On a toujours eu les mêmes amis. On a toujours
vous avez
amis
toujours eu les mêmes potes.
Mais après, vu que tu faisais du sport et que moi, je faisais autre chose, tu as rencontré des gens...
À l'extérieur, on n'a pas les mêmes amis. Bah, moi, je fais du sport et j'ai des amis que tu n'as pas, en fait.
Oui. Mais bon...
Oui,
en général, c'est vraiment les meilleurs amis qu'on a, c'est les mêmes.
Ouais.
Tu fais quoi comme sport, Marie?
Je fais de la course à pied.
En club?
Oui.
Le soir, les filles regardent chacune de leur côté des vidéos sur YouTube, des séries sur Netflix, conseillées par leur frère aîné, qui, à leur demande, censurent les programmes qui pourraient les effrayer. Quant à un retour en cours, elles ne le souhaitent pas avant septembre 2020 et leur entrée en seconde qu'elles imaginent toutes deux comme un nouveau tremplin à ce chemin d'indépendance et d'autonomie si difficile pour elles à emprunter. Le second entretien a lieu dans la chambre de Laura, aux côtés de Marie et toujours de leur maman. Un bureau noir bien rangé sur lequel Laura a déposé ses petits carnets, parfaitement alignés. C'est ce qu'elle choisit de nous montrer en premier, se lançant ensuite dans une visite très pointilleuse de sa chambre et de ses objets. Elle nous dit qu'elle a trois carnets, un pour les semaines où elle note les devoirs, un autre pour l'année où elle note ses grands rendez-vous, et un pour la vie quotidienne, dans lequel elle note ses pensées.
Je ne me souviens plus, Laura, toi, t'aimes bien écrire ou pas?
Oui, ça va.
Tu écris un peu dedans, des pensées ou des...
Oui, je note des pensées positives ou je note... ce que je pense.
Ah, des pensées positives, c'est chouette ça.
Oui, des réussites pour avoir confiance en moi.
des réussites, des choses où évidemment, tu te félicites.
Oui.
T'en aurais une à nous partager?
C'était aujourd'hui. Je me suis bien organisée pour mes devoirs et du coup j'avais du temps libre. Ouais. Donc, genre, j'ai bien réussi à apprendre mon oral pour le brevet.
En observant Laura dans sa chambre tirée à quatre épingles et où rien ne dépasse, et son rapport avec le réel consigné, je ne peux m'empêcher de penser à Georges Perec, à son besoin de liste, de classement, à la fois déclencheur de l'écrit, de la pensée, mais aussi joie de l'énumération exutoire. Laura, dans son processus de pensée classée qui frôle la maniaquerie, contient certaines choses, en exprime d'autres. Dans le calme de son bureau, au milieu de ses carnets, de ses stylos, la jeune fille apprivoise ce temps pour elle qu'elle ne partage ni avec sa mère, ni avec sa sœur, ni avec les copines. C'est là qu'elle fait ses devoirs, qu'elle organise son agenda, ses souvenirs, qu'elle pense le monde, qu'elle se pense, elle, au-delà de sa sœur, même si tout au long des entretiens, j'ai perçu que pour elle, c'était compliqué de se projeter loin de Marie. Plus bavarde, c'est vrai, plus loquace, elle est aussi celle qui protège et qui se rend malade quand Marie pleure ou stresse. Un choix pas hasardeux que ce petit bureau, sur lequel elle construit sa propre personnalité, celle d'une jeune fille engagée qui a fait de Simone Veil son modèle. Elle nous dit qu'elle est féministe, plus que Marie, qui ose moins l'ouvrir qu'elle. Et elle nous raconte qu'au repas de famille, parfois ça fuse vraiment et qu'elle, elle ne se laisse pas faire. Elles reviennent toutes les deux sur leurs origines espagnoles et cet héritage qu'elles trouvent plus patriarcal qu'en France. Elles y vont tous les étés et retrouvent leur famille.
Vous aimez bien cette ambiance espagnole, cette culture espagnole ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez gardé de cette culture espagnole ?
On mange beaucoup, c'est sûr.
C'est vrai, vous aimez manger ?
Ouais. La famille, ils sont très famille, je trouve.
Ouais, hein. Très famille, très tradition. Ça fait bien notre papa, mais...
Les très Espagnols tradition. Sont très tradition. Un peu d'époque, genre les femmes dans la cuisine et les hommes à table, en train de manger.
Ça vous plaît, les filles ?
Non.
Ah oui.
Mon père, il nous le raconte parce que lui, quand il est arrivé ici, quand il est né ici, c'était comme ça chez lui.
Sa maman, oui, il y avait encore ça, ouais.
Oui, voilà, du coup.
Le raconte comment, papa, ça ?
Il dit... ma grand-mère, elle allait chercher le millefeuille pour qu'il soit bien frais. S'il y avait de la viande, c'était pour les hommes. Tous les hommes étaient dans la cuisine. Par exemple, si moi je voulais aller faire la vaisselle, ma grand-mère, elle m'engueulait, elle me disait d'aller dans le salon. S'il y avait un morceau de viande, c'était pour les hommes. Pas pour elle.
Ça vous semble loin cette période?
Ah non, parce qu'il y a encore des hommes qui sont comme ça.
Enfin, notre ami, il y a beaucoup d'hommes.
Vous en voyez en Espagne ?
Oui.
Il y en a aussi en France. Hein.
Oui.
Rassurez-vous. Vous avez quel rapport, Figa, par rapport à votre point de vue de femme, justement, sur le rapport homme-femme, garçon-fille ? Est-ce que...
C'est le sujet. Je suis très féministe.
Tu es féministe, Laura ?
Oui, j'aime pas, ça m'énerve, les gens comme ça. Sauf que mon père, il aime me faire, pour me taquiner, il me dit « Ah, mais Laura, mais va faire le ménage, les femmes, c'est fait pour faire à manger, ça m'énerve
!» Et alors, c'est quoi ?
Ça me met dans une colère noire, les gens qui disent ça.
Ouais.
Pour moi, l'homme, il est autant égaux que la femme, genre, il est égal. Genre, il peut y faire à manger, il fait le ménage, il s'occupe des enfants, et c'est pas que la femme.
Discours très affirmé que celui de Laura, qui pourtant a besoin de cœur, de grillerie, de porte-bonheur dans sa chambre et autres maximes positives sur les murs pour se rassurer, comme sur ce cadre déco où est inscrit « Tous les matins, lève-toi avec l'intention d'avoir une magnifique journée et dis-toi haut et fort, je suis capable et je vais tellement réussir. » Quand je l'interroge sur ça, elle me dit que ce sont des pensées positives et que le positif attire le positif. Que c'est une idée de la psychologue qui les suit depuis pas mal de temps pour les accompagner dans cette confiance en elles. Au milieu de ces murs blancs et taupes, dans son univers cosy, à la décoration soignée, Laura se sent en sécurité, chez elle. Elle aime particulièrement son arc de vie à la mer indienne qu'elle nomme capteur de rêve. Un petit cerceau en saule, avec réseau de fils et de plumes très en vogue dans la déco New Age du moment. Le yin et le yang sont représentés par le blanc, nous explique-t-elle, et le noir. Et elle se dit que ça lui ressemble, à elle et à sa sœur. Elles ont des goûts, des personnalités opposées, mais qu'elles sont très bien ensemble, elles se complètent. Je note d'ailleurs que Laura dit souvent « moi et Marie », rarement l'inverse, comme si elle ne pouvait pas parler d'elle sans évoquer Marie. Et sur le cadre, avec lettres aimantées qu'une amie leur a offert à chacune, Laura a inscrit « positif » et « Marie, vis ta vie ». Dans cette chambre impeccable, Laura ne regarde jamais par la fenêtre et ne s'assoit pas au sol, si ce n'est pour s'élancer avec sa jumelle dans d'infernales crises de rire.
Bah, je sais pas, parce que je sais pas si le fait d'être jumelle, mais on se comprend, alors nos délires, ouais. On est mort de rire, alors que ouais. Les gens, ça ne doit pas les faire rire.
Plus tard, Laura, elle y pense. Elle aime réfléchir à l'avenir et elle s'imagine mariée avec des enfants, mais forcément proche de sa sœur. Elle voudrait être la marraine de ses enfants, le témoin du mariage de Marie, etc., etc. Pour le métier, elle a déjà fait des plans aussi, Laura. Elle veut être professeure des écoles, c'est réfléchi, c'est pesé. Elle aime le contact avec les enfants. D'ailleurs, elle dit qu'ils sont toujours collés à elle. Elle aime l'ordre, l'organisation, quand tout est prévu et carré. Et elle dit qu'elle est aussi créative et que tout ça est bien pour ce métier. En attendant, celle qui fuit le silence écoute sa musique sans oreillette, sur sa tablette. Elle aime bien la chanson française des années 80, Bruel, Céline Dion, dont les textes lui parlent davantage que ceux du rap contemporain.
Bah après, j'aime bien les musiques de maintenant, mais le problème c'est que comme le rap, le truc comme ça, je comprends jamais les paroles, le sens. Alors que je trouve les musiques d'avant, je sais pas, c'est plus... Genre les paroles, elles veulent vraiment dire quelque chose, par exemple du Céline Dion ou des trucs comme ça, mais je trouve que c'est mieux, genre les paroles, je sais pas, je trouve que c'est mieux les paroles. Je suis peut-être bizarre, mais... Après j'aime bien écouter les musiques de maintenant, mais... Enfin, je préfère les musiques d'après, pas d'avant.
Elle classe les morceaux dans sa tête, suivant les souvenirs, comme ce morceau de Patrick Bruel dont elle a oublié le titre et qui lui rappelle un moment en Espagne, un rêve qu'elle avait fait là-bas. De ce rêve, elle ne dira rien. C'est son jardin. Marie ne rejoint sa chambre que pour nous la faire visiter avec sa mère et sa sœur. Autrement, l'entretien a eu lieu, toujours eu lieu, dans la chambre de Laura. Sans hésiter, elle choisit de nous montrer son lit en premier. Un lit en 90, confortable, juste sous la fenêtre sans volet qui donne sur le jardin de la maison. Sous son lit, un tiroir. Au-dessus, une guirlande lumineuse qu'elle allume pour lire. Pas de table de nuit, elle déteste ça. Juste devant, un ventilateur sur pied semble attendre l'été.
Je passe ma vie sur mon lit.
Dessus, je fais tout. Genre, j'écoute de la musique, je lis...
Quand tu fais tes devoirs, tu te mets sur ton lit aussi?
Quand c'est pour apprendre des leçons, ouais, je le fais sur mon lit. Au moins, je suis tranquille.
Si t'as pas besoin d'écrire, quoi, t'es sur ton lit.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est aussi là qu'elle écoute sa musique avec ses écouteurs. Elle aime soprano, Christophe Maé, ou comme sa sœur, les variétés des années 80. C'est là aussi qu'elle apprend ses leçons. Les devoirs écrits, elle préfère les faire au milieu de tous, sur la table du salon. Pas de bureau dans sa chambre. Marie passe moins de temps que Laura à nous montrer ses affaires. Elle n'arrête pas de dire qu'il y a de tout, de rien, sur sa commode, dans ses tiroirs. Elle dit qu'elle n'aime pas changer les meubles de place, que le changement la stresse. Mais qu'elle aime cette chambre parce qu'elle l'a décorée toute seule. Sur la commode, du maquillage, une boîte à bijoux. Dans les tiroirs, c'est court. Dans d'autres, bah, des fouillis, toujours des fouillis. Marie a son petit bazar, qu'elle ne veut pas nommer, ni discriminer. Une façon de se distinguer de sa sœur, qui aime l'ordre, et à qui elle reproche avec une tendresse sa maniaquerie. Elle dit qu'elle allait ranger normal, et que Laura est vraiment maniaque. Elle se dit rêveuse, gaffeuse, pas du tout cartésienne, ce qui la complexe souvent, comme si c'était un handicap. Elle dit qu'elle n'est pas logique, qu'elle a des difficultés en maths, Pareil pour les frises chronologiques d'histoire qu'elle comprend pas du tout. Et si on la critique sur un exercice raté, ça la décontenance vraiment. Marie dit « Parfois, je me sens à côté. Je me dis que je n'ai pas les mêmes facilités que ma sœur, que les autres, et ça me peine. » Elle, ce qu'elle préfère, c'est bouquiner dans sa chambre, surtout les romans de Daniel Steele, qu'elle dévore en ce moment. Elle aime être seule, lire, et surtout partager les livres avec sa mère qui a une grande bibliothèque. C'est elle qui lui conseille les bouquins, après elles en parlent ensemble. Son goût pour la lecture s'est imposé à peu près il y a un an, après avoir vu Les Misérables au théâtre. En rentrant, elle avait tellement aimé le texte que sa mère lui a donné l'ouvrage de Victor Hugo à lire. Elle a adoré, elle a continué. Marie, l'angoissée, qui a si peur de sortir seule sans sa sœur, si peur du jugement des autres au collège, aime se plonger dans cet ailleurs rassurant qu'est la littérature. Elle nous dit que parfois elle est tellement dans un livre qu'elle n'a pas envie de le terminer, qu'elle aime le papier, la texture, l'odeur des livres, et que ça la coupe vraiment du reste du monde et du téléphone. Quand elle ne lit pas, couchée sur son lit, entre le cadre décoratif Dream et les photos de la famille si importantes pour elle, Marie se laisse aller à la rêverie.
J'imagine que vous avez un grand imaginaire aussi.
Oui.
Alors on en parle ?
Ben, moi, j'écoute beaucoup de musique parce que j'aime beaucoup rêver ouais, dans un autre monde, enfin dans mon monde.
Ouais, moi aussi.
Du coup, j'écoute beaucoup de musique.
Qu'est-ce que tu imagines alors ?
La vie future, des événements qui se sont passés, la nostalgie des fois. Quand je vois, par exemple, qu'avec mes potes, on a, je sais pas, par exemple, on est allé manger au McDo, ben, que c'est fini, j'ai la nostalgie. En fait, il y a tout qui se mélange.
Tu voudrais retenir les bons moments.
Oui, voilà. Puis en même temps, je pense à ma vie future, à tout. Vraiment, rêver, c'est toute ma vie.
Ta vie future, quand tu l'imagines, tu pourrais nous dresser un petit portrait de ta vie future, comme tu l'imagines ?
Travailler dans une pharmacie, avoir des enfants, deux ou
Combien
trois.
Combien ? Deux ou trois.
Avoir un mari, me marier.
Important le mariage ?
Oui.
Alors qu'est-ce qui est important ? C'est le mari ou c'est le mariage ?
Tout en général.
ouais, tout. Pas pareil, hein ?
D'avoir le plus beau, c'est le plus beau jour de notre vie. Donc.
J'ai des rêves simples, conclut Marie, sans malice ni second degré. Cette jeune fille est sans filtre, sans posture. Elle est cette discrète sensible, franche et entière, qui ne veut pas se faire remarquer, de peur d'être mal jugée. Il n'y a qu'à la maison qu'elle ouvre la cage à son esprit fantasque et assume sa façon décalée d'être à la vie, qui souvent fait rire les siens. Là, dans sa chambre, en sécurité, elle scotche son appareil photo à la fenêtre et, confiante, elle se mitraille en selfie. Elle aime prendre des photos d'elle. Régulièrement, elle se maquille, elle s'habille. Elle s'aime beaucoup, là, et elle se trouve jolie. Incroyable Marie qui, du haut de ses 15 ans, ose dire qu'elle s'aime physiquement à un âge où on se déteste, comme avouer qu'elle rêve d'une vie simple, sans s'imaginer riche, ni star des réseaux sociaux, contrairement à la plupart de ses contemporains, qui ne pensent qu'à récolter un maximum de likes et sont prêts à tout pour leur quart d'heure de célébrité. Marie est différente, elle le sait, hypersensible comme le sont les poètes, les artistes, ou encore certaines jeunes filles que j'ai pu croiser lors d'ateliers dans les hôpitaux de jour psychiatriques. Une hypersensibilité souvent mal jugée, mal menée. Et c'est de cela dont Marie se protège, ayant déjà observé avec une fine acuité que les gens populaires ne sont pas les plus discrets, mais ceux qui parlent beaucoup, ceux qui ont des vêtements à la mode et qui montrent plus que ce qu'ils possèdent. C'est pour cette raison qu'elle s'habille sobrement et ne se fait pas remarquer au collège. Parfois, le matin, elle se dit « Allez, vas-y, Marie, mets une robe. » Et puis, finalement, elle revient au jean, t-shirt, basket. Elle a peur du jugement négatif, peur que les gens disent que sa tenue ne va pas. Le regard des autres l'empêche d'être elle-même. Elle ne se sent pas libre au collège. Comme pas mal d'adolescents, Marie s'ampute pour exister d'une partie d'elle-même et se fond dans le lot. Elle trouve auprès de sa sœur jumelle une alliée pour se sentir plus forte dans cette jungle collégienne qui, d'une certaine façon, reflète en plus exacerbé les travers de la société. En attendant de s'affranchir de cette peur de l'autre, Marie s'accroche à un certain déterminisme, à ce destin qui est écrit quelque part pour elle et qu'il faut savoir accepter pour traverser les jours compliqués. Elle dit que ça n'a rien à voir avec de la religion, qu'elle ne croit pas en Dieu, mais que de croire au destin, ça l'aide à passer les épreuves, prendre de la distance quand les choses arrivent, et surtout ne pas trop stresser. Et stresser fait vraiment partie de sa vie, à lui broyer le ventre une bonne partie de l'année. Il y aurait sans doute une étude à mener sur l'origine des maux de ventre au collège, chez les jeunes filles. Même si Marie assure que ce n'est pas une affaire de sexisme, que les jugements les plus méchants ne viennent pas des garçons, mais des filles. Une méchanceté des filles, entre elles. Une sororité encore défaillante aujourd'hui, même à l'ère hashtag MeToo, est souvent évoquée chez les adolescentes rencontrées. Alors Marie et Laura usent de leur hyper-complicité de jumelles comme d'un bouclier aux agressions extérieures. Marie me dit « Être jumelle, oui, c'est une force. » Et puis elle ajoute « Au lycée, j'espère qu'il y aura une autre mentalité, que je pourrai faire ce que je veux, oser davantage et sortir sans ma sœur sans avoir peur. » En attendant, ses lectures l'inspirent, comme sa marraine de Saint-Gervais-sur-Mare, dont elle nous parle, une éleveuse de canards qui, après les dégâts d'inondation, a entièrement reconstruit son exploitation. Elle admire. En quittant Marie et Laura, je suis touchée par la sincérité de ces jeunes personnes intelligentes et sensibles qui ne demandent qu'à prendre leur envol au-delà de leur chambre. C'est ce qui est beau à cette période de vie. Les possibles infinis, droit devant, et ces fenêtres en rez-de-jardin de l'enfance, qui parfois sont tellement paisibles qu'on a bien du mal à les enjamber pour filer vers l'inconnu.